y a là une belle continuité de la part de Politique Autrement, de ma part aussi, mais enfin en tant qu'individu c'est moins étonnant. Mais de votre part c'est tout à fait frappant, puisque les deux thèmes dont j'étais venu parler auparavant, ici à ce, devant les membres de ce club, sont réactualisés, sont réactivés à l'occasion de l'affaire dite de l'Arche de Zoé, qui a un côté tout à fait anecdotique et exceptionnel, mais qui, par les marges qu'elle occupe, nous dit quand même un certain nombre de choses sur certaines conceptions de l'aide à l'enfance et de l'aide humanitaire prises chacune séparément. Et c'est en distinguant l'une et l'autre, parce qu'il me semble que cette affaire mérite d'être envisagée sous ces deux angles, que je vais aborder la question. On a beaucoup entendu depuis les trois mois que cette affaire occupe une certaine place dans les médias, on a beaucoup entendu que c'était une certaine remise en cause de l'humanitaire et que les ONG humanitaires, l'aide humanitaire en avait pris un coup avec cette affaire. C'est peut-être vrai, le temps répondra à cette question, parce que pour l'instant on ne peut absolument pas en juger, ou en tout cas on ne peut juger que sur quelques détails qui ne laissent pas entendre que l'humanitaire soit totalement remise en question, aussi profondément qu'on le dit. Mais ça pose évidemment la question d'un certain style d'humanitaire. Et c'est de cet aspect-là, de ce style-là particulier, un style et une conception, parce qu'au-delà des affaires personnelles et de surface, de forme, il y a tout de même des conceptions de fond qui les distinguent. Mais je voudrais commencer pour, disons, renouveler un peu cette réflexion sur issue de l'Arche de Zoé, je voudrais commencer par cette question de l'enfance. Car l'Arche de Zoé, les comportements d'Éric Breteau, d'Émilie Lelouch et de ces gens renvoient, en fait, se raccordent de manière extrêmement forte à une certaine tradition de l'aide sociale à l'enfance, de l'assistance sociale française. En tout cas, si j'en crois, parce que je n'en suis pas un spécialiste, si j'en crois un historien, Yvan Yablonka, qui s'est beaucoup intéressé aux questions de traitement de l'enfance, notamment au XIXe siècle. Et il faut savoir que, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays, l'idée d'un salut de l'enfance par l'arrachement au milieu dans lequel se trouvent les enfants est profondément enracinée dans l'imaginaire de l'aide sociale. Et par exemple, Yablonka nous dit ou nous rappelle qu'entre 1860 et 1940, sur une période tout de même assez longue, mais enfin sur une période limitée, ce sont près de 250 000 enfants qui ont été arrachés à leur famille, à leur milieu, parce que ceux-ci étaient jugés déficients, viciés, impropres à l'éducation solide des enfants. Donc l'idée que l'aide sociale, les pouvoirs publics incarnent une sorte d'instance morale préférable à celle que devrait représenter la famille et se dote est légitime pour juger des conditions dans lesquelles des enfants sont élevés, voire arracher ces enfants lorsque ces conditions sont jugées inaptes, inappropriées. Voilà déjà une racine très profonde et, je crois, très présente si l'on écoute les protagonistes de cette affaire. Pour mémoire, je voudrais quand même rappeler que ça n'est pas simplement une affaire historique, puisque ceux qui s'intéressent à ces questions se rappellent sans doute, et d'ailleurs l'affaire a rebondi il y a seulement deux ou trois ans, on se rappelle sans doute que de La Réunion, dans les années 60-70 du XXe siècle, donc nous étions déjà tous adultes ou adolescents, de La Réunion, dans ces années-là, ont été ramenés de force 1600 enfants installés dans des familles dans le Massif central et dans le Sud-Ouest. Je vois que beaucoup d'entre vous connaissent cette affaire. Yablonka rappelait dans un article récent, très intéressant, que le sort ultérieur de ces enfants a été absolument désastreux. et que les affaires de délinquance, de drogue, de dépression, de suicide sont extrêmement nombreuses, et que l'idée donc que le salut de ces enfants peut être obtenu, peut être atteint par l'arrachement à leur famille, a sans doute fait long feu, mais ça n'est que très récemment. Et en tout cas, c'est une conclusion, conclusion à laquelle n'étaient pas arrivés les membres de l'Arche de Zoé, et pour cause, car elle est quand même solidement ancrée. Et pour connaître par d'autres circuits que ceux dont je suis familier, les circuits de la psychiatrie sociale en France, je peux témoigner que ces méthodes d'arrachement sont encore très présentes, même si elles ne sont plus aussi violentes qu'autrefois. Donc cela pour dire que ce droit que se sont octroyés les membres de l'Arche de Zoé d'aller chercher des enfants en truquant, en dissimulant, en contournant les obstacles, ils s'adossaient à un sentiment de légitimité et certes de toute puissance, on y reviendra, mais un sentiment de légitimité qu'ils n'ont pas eux-mêmes fabriqué. C'est une légitimité qui est issue d'une pratique très largement répandue, enfin très longuement répandue, heureusement en déclin aujourd'hui, mais visiblement pas disparue. Alors l'autre aspect de cette affaire, c'est naturellement une certaine conception de l'humanitaire, j'insiste là-dessus parce que chacun l'a compris, j'en défends une autre, et par conséquent, je ne voudrais pas que celle que je défends soit totalement absorbée, contaminée par celle que je critique. Cette affaire, enfin cette conception de l'humanitaire, je pense qu'on peut la définir brièvement par deux ou trois points qui en font ressortir les traits les plus saillants. Le premier, c'est une conception de suprématie morale. Je veux dire par suprématie morale, ce que je veux dire par là, c'est que la morale surplombe le droit et est la source de la légitimité. D'ailleurs, il suffit de voir à quel point le mot d'indignation revient, comment il est récurrent dans ce discours pour comprendre que cet outrage que l'on ressent à voir la misère du monde, donc cette posture morale, voire moralisatrice dans laquelle on se place pour examiner les détresses, les misères, les malheurs, peu importe comment on les appelle et s'ils sont vrais, parce que c'est une question de perception, c'est là que se situe la source de la légitimité. Et cette légitimité, elle s'exprime par exemple par cette phrase que Bernard Kouchner n'a eu de cesse de répéter, d'écrire sous forme de titre, sous forme d'adresse envoyée au monde. Faut-il les laisser mourir ? Sous-entendu, avons-nous le droit de détourner le regard quand des êtres humains meurent, quel que soit l'endroit et quelle que soit la cause ? Non, ajoute-t-il, notre indignation doit nous servir de viatique et nous conduire, là aussi, à arracher des innocents à la mort. Et cette source-là de légitimité, elle renvoie effectivement au titre que vous avez donné à cette séance de ce soir, l'humanitaire a-t-il tous les droits ? D'une certaine manière, oui, à partir du moment où c'est à la morale de chacun qu'est renvoyée la légitimité de l'action humanitaire, eh bien c'est en fonction des indignations forcément sélectives, parce que nécessairement subjectives, que cela s'adresse. Et donc l'empilement de ces indignations, de ces outrages personnels, de ces discours édifiants, finit par décréter une sorte d'état d'exception permanent à l'intérieur duquel chacun peut trouver les terrains sur lesquels il va pouvoir exercer ses talents de sauveteur. Mais évidemment, à cette conception peut s'opposer une autre, qui ne s'oppose d'ailleurs pas sur tous les points, car il y a un certain nombre de choses qui les relient, mais à cette conception peut s'opposer une autre, qui fait du droit humanitaire et du droit national, un garde-fou, des limites avec lesquelles il est nécessaire de composer. Et c'est pour moi, à ce moment-là, à ce stade, l'occasion de rappeler que, de fait, des limites existent et que l'aide humanitaire en général, quelles que soient les conceptions que l'on peut en avoir, l'aide humanitaire n'évolue pas, ne se déploie pas dans un vide juridique. Elle se déploie au contraire sur des territoires qui sont normés, balisés par un certain nombre de règles, de limites et d'obligations. Et ces règles, elles se situent à deux niveaux. Je ne vais pas développer longuement là-dessus parce que ce n'est ni ma spécialité ni mon orientation principale, mais tout de même, c'est bon de le rappeler, elle se déploie à deux niveaux. Le premier, c'est, enfin, sans ordre hiérarchique, le droit international humanitaire qui s'applique aux situations de conflits armés et qui, par conséquent, dans le contexte du Tchad, était à la limite de son domaine d'application. Et puis, parce qu'il n'y a pas à proprement parler de conflit armé au Tchad, en tout cas, ce n'est pas dans ce cadre-là qu'interviennent les acteurs humanitaires d'aujourd'hui. Et puis le deuxième niveau, peut-être beaucoup plus important, parce que extrêmement pratique et concret, c'est le droit national. Et les organisations et membres des organisations humanitaires signent, il faut le savoir, des protocoles d'accord, des mémorandums of understanding dans le jargon humanitaire international, des MOU, qui prennent pour base à la fois le droit international humanitaire, qui fixe les droits et obligations des organisations humanitaires, mais qui tiennent compte, et comment pourrait-il en être autrement, qui tiennent compte du droit national. En l'occurrence, c'est ce droit national qui a été violé par les membres de l'Arche de Zoé. Ils ont été piégés, probablement, puis en tout cas filés, à mon avis, jusqu'à ce qu'ils soient pris la main dans le sac, c'est-à-dire le pied à la passerelle de l'avion. Ils ont été filés, attrapés en pleine commission du délit, enfin du crime, selon le droit tchadien, et coffrés et jugés en toute légalité. Certes, le procès laisse à désirer, et même plus qu'à désirer, ça a été de la justice expéditive, il en reste pas moins que cette infraction, enfin ce délit, enfin peu importe, a été commis et qu'ils ont été sanctionnés conformément aux règles qui s'appliquent absolument n'importe où. Donc à la question qui est posée dans le document d'invitation, la réponse est claire. Non, l'humanitaire n'a pas tous les droits. L'humanitaire a les droits que les États lui accordent lorsqu'il est en opération sur le terrain. Et là, j'ajoute tout de suite que dans l'ensemble, ces droits sont tout de même très étendus. Et que la marge de manœuvre qui est laissée aux organisations humanitaires pour accomplir le travail est généralement tout à fait satisfaisante. Bien entendu, elles peuvent être limitées, on en parlera peut-être au sujet du Darfour un peu plus tard, elles peuvent être limitées par un certain nombre de problèmes de sécurité, de paranoïa, de volonté de dissimuler certaines actions ou d'interdire certains territoires aux humanitaires, en particulier certains territoires de conflit. Mais je n'ai jamais vu depuis un peu plus de 30 ans que je suis engagé dans cette forme d'action, je n'ai absolument jamais vu de conflit dans lesquels le territoire pouvait être parcouru librement. Que ce conflit implique des puissances occidentales ou des puissances occidentales et des guérillas ou des guérillas et des gouvernements du tiers-monde entre eux, il n'y a absolument aucune exception. Je dirais même que dans l'ensemble, les puissances occidentales ont tendance à s'octroyer une sorte de droit de bouclage sur les territoires sur lesquels elles interviennent militairement, que bien peu d'États du tiers-monde s'autorisent, sans doute soucieux d'éviter des critiques, des procès d'intention qui ne manquent pas de s'abattre sur eux. Je me souviens par exemple qu'au moment de l'attaque de l'Irak, aussi bien en 91 qu'en 2003, au moment de la guerre de Somalie, enfin de l'engagement militaire humanitaire en Somalie en 92 et 93, il était très fréquent d'entendre les militaires décréter que telle zone serait entièrement militarisée et que toute personne qui s'y trouverait, du fait qu'elle avait été informée auparavant du bouclage de cette zone, serait considérée comme un élément hostile et par conséquent susceptible d'être tirée à vue sans sommation. Et c'est en Somalie en tout cas ce qui s'est fait à de nombreuses reprises, c'est-à-dire pas de façon accidentelle mais de façon méthodique. Donc j'ouvrais cette parenthèse pour indiquer que tout territoire conflictuel est nécessairement parsemé d'obstacles et partiellement fermé à la circulation des humanitaires, et que c'est avec cette difficulté-là que l'on s'habitue à faire lorsque l'on est impliqué de longue date dans des opérations qui ont la guerre pour théâtre d'opération. Donc, cette question du droit réglé, je ne reviens pas sur le droit d'ingérence parce que, après tout, le document existe, j'en ai déjà parlé, je ne pense pas que tout le monde... il est sur le site. Donc, je n'intervenais pas tellement, j'intervenais moins sur le droit d'ingérence que contre le droit d'ingérence pour diverses raisons qui sont disponibles. Mais ce qui me semble être très intéressant à relever là, c'est au-delà de cette ingérence, ou peut-être dans le cadre, disons, intellectuel qui est dressé pour faire fonctionner cette notion, ce qui est marquant, c'est la sursimplification, la schématisation jusqu'à la caricature de la situation dans laquelle se trouvaient ou sont censées se trouver les populations du Darfour. L'Arche de Zoé et avant elle un certain nombre de gens, il faudra y revenir, un certain nombre de gens et d'institutions ont peint le tableau manichéen par excellence dans lequel figuraient des hordes fanatisées lancées à l'assaut de populations qui n'avaient d'autre chose que leurs larmes pour pleurer, donc des islamistes radicaux contre des, alors au départ des chrétiens, mais ça c'était la version américaine, c'était une version électorale, disons, de la guerre au Darfour, ça c'était en 2004. Ensuite on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 100% de musulmans dans cette région et que par conséquent ça n'était pas un conflit religieux, mais c'était d'un côté des musulmans intégristes et de l'autre côté des musulmans laïcs. Mais ça n'était pas seulement cette sursimplification-là qui était à l'œuvre. Je dirais quelques mots sur ce qu'il faut, enfin sur la réalité concrète, politique, sociale de cette région. Mais c'est aussi d'autres simplifications. Il y avait par exemple la simplification qu'on pourrait considérer comme assez poujadiste de un establishment de l'aide marqué par la bureaucratie, l'aveuglement, la routine, l'indifférence. Par rapport à des francs-tireurs souples, émus, n'écoutant que leur cœur et leur indignation. Cette opposition-là, elle transparaît dans pratiquement toutes les interventions de l'Arche de Zoé. Cette sursimplification, ce ne sont pas les gens de l'Arche de Zoé qui l'ont fabriquée. Ils l'ont simplement récupéré. Ils ont emprunté dans un certain discours public, les principaux thèmes qu'ils ont ensuite accommodés à leur sauce en les dramatisant, en les mélodramatisant un peu plus encore. Mais la sursimplification du Darfour, elle a pour moi une origine et un cadre très précis, en tout cas en France et pour l'année 2007. C'est le meeting qui a eu lieu à la Mutualité, où tout de même, ça n'est qu'un meeting à la Mutualité, et on sait que la Mutualité, si on la faisait parler, elle aurait des bêtises à raconter. Ça, c'est sûr, j'en sais quelque chose. Mais enfin, en l'occurrence, ce meeting-là, il a vu défiler un nombre de personnalités assez considérable, puisqu'à peu près tout le Gotha politique s'y est montré, la main sur le cœur, pour dénoncer le génocide. Le premier génocide du XXIe siècle, on pourrait l'écrire avec des traits d'union, tellement cette formule a été utilisée et usée jusqu'à la corde. Mais enfin, elle produit ses effets, car la question du génocide, elle est évidemment centrale dans cette histoire. Le génocide étant le mal absolu, le crime majuscule, celui qui autorise de sortir des cadres habituels pour s'installer, comme je le disais tout à l'heure, dans une sorte d'état d'exception, eh bien ce génocide, il a été dénoncé par à peu près toutes les personnalités politiques qui ont défilé à la tribune de la Mutualité, et au-delà des personnalités politiques, un certain nombre de personnalités, disons, publiques, morales, enfin je pense évidemment à Kouchner et Bernard-Henri Lévy, qui en étaient les principaux porte-parole. Kouchner, qui n'était pas ministre, évidemment, à l'époque. Donc l'installation de ce cadre du génocide, qui d'ailleurs, il n'est pas indifférent de le relever, n'est pas complètement stupide, en tout cas du point de vue juridique, l'installation de ce cadre du génocide est une sorte d'incitation, un encouragement au sauvetage intempestif, un encouragement à sauter les obstacles, à se libérer de toutes les entraves qui peuvent se présenter, qui peuvent s'opposer à la marche vers le sauvetage des innocents, parce que le génocide, c'est la promesse de mort généralisée. Et donc, j'en reviens à cette phrase clé, cette espèce de slogan, faut-il les laisser mourir? La réponse est évidemment non. Et ce qu'a voulu faire l'Arche de Zoé, c'est montrer par l'exemple qu'il était possible d'empêcher cette mort d'advenir. Il était possible d'arrêter le bras du bourreau par une action d'intrusion qui avait une vocation symbolique. Et c'est le deuxième point sur lequel que je vais dire très brièvement. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est-à-dire ce que j'appelais, disons, un certain style ou une certaine conception de l'humanitaire, c'est celui qui fonctionne à coup de symbole. L'action étant elle-même considérée comme dérisoire, insignifiante, secondaire, le symbole destiné à frapper les esprits, à frapper les esprits, à alerter l'opinion, à déclencher une action qui, elle, serait significative, pas comme le sauvetage ponctuel, limité, auquel peuvent se consacrer quelques ONG en mal de dévouement. La vraie action, ce sont les États et leurs armées, dans cette conception, qui sont susceptibles de la mener. Et donc, l'action symbolique consistait à ramener des enfants, symbole évidemment de l'innocence, arrachement justifié par les considérations que je rappelais au début, et une fois ramené en France, de mettre en scène, c'était prévu comme ça, j'ai eu le hasard des circonstances, m'a amené à Reims il n'y a pas si longtemps, j'ai pu discuter avec des journalistes de l'Union de Reims qui avaient suivi cette histoire, parce qu'ils devaient atterrir tout près de Reims. Et donc il y avait pour la fin novembre une grande mobilisation qui avait été organisée avec environ 200 familles. Ne voyez aucune allusion. mais il y avait 200 familles apparemment qui étaient venues non seulement de la région mais de toute la France. Et non seulement toute la France mais également de Belgique, de Suisse et même une famille du Canada. Venue spécialement pour recueillir, accueillir. Et ultérieurement, le cas échéant, en raison de la longueur de cette guerre, de son issue très incertaine, donc du long séjour qu'allaient faire les enfants en France, ultérieurement donc adopter, l'ambiguïté entre accueil et adoption étant soigneusement et très cyniquement, je crois, entretenue par Breteau et l'Arche de Zoé. Mais ce symbole, Breteau d'ailleurs l'énonce très candidement dans les interviews qu'il a faites avec la presse, ce symbole c'était celui du sauveteur héroïque emprisonné après avoir arraché les enfants aux griffes du monstre et évidemment au bout de ce symbole il y avait la libération, la victime devenant le véritable héros. Et tous, comme dans une sorte de secte d'ailleurs, c'est quelque chose d'un peu inquiétant à entendre les différents membres de cette association s'exprimer, tous disent, enfin ont deux, trois arguments qu'ils recyclent, enfin qu'ils mettent en avant systématiquement, et l'un de ceux-ci, c'est que si cette opération avait réussi, et ils étaient sur le point d'aboutir, eh bien, ils auraient été traités non pas comme des pestiférés, mais comme des héros. Ils semblent absolument convaincus que c'est le sort qui leur aurait été réservé. Donc, après un séjour en garde à vue, Breteau et ses compagnons seraient sortis, salués comme des héros, et ensuite à même de décrire cette situation, de décrire l'Auschwitz des sables dont ils avaient arraché les enfants et œuvrer pour une intervention décidée pour l'envoi d'une force militaire d'interposition, parce qu'évidemment, quand il y a des tueurs et des victimes, quand il y a des gens armés et des civils, il y a une interposition qui s'impose. en quelque sorte. Donc cette réduction à la simplicité ultime, à une sorte de morale minimum, ou un moralisme maximum de cette situation, voilà à quoi elle aboutissait. Et c'est donc à la fois ces notions d'ingérence, donc l'intrusion de l'aide sociale à l'enfance, l'arrachement à la famille, d'ingérence aussi, saute frontière, si l'on veut, celle qui s'autorise toutes les facilités, tous les coupes-files, du fait du surplomb moral depuis lequel elle contemple les situations, mais aussi ce goût du coup publicitaire, du tapage médiatique, pour le dire dans les termes délibérément provoquants que Kouchner a voulu mettre en circulation. Mais moi, que je vois comme ce symbole, cette attitude, cette fonction d'éveilleur de conscience que se donnent des gens comme ça, voilà ce qui me semble être mis en cause par l'Arche de Zoé. Je ne vais pas défendre pour faire l'équilibre ma propre conception. Enfin, je crois qu'elle est, elle se dessine en creux là, et donc puis si vous voulez, je répondrai à des questions. Mais voilà, c'est cet absolutisme moral qui, à mon avis, est la question de cet absolutisme moral qui, à mon avis, est soulevée par l'action de l'Arche de Zoé. Et je crois que c'est la raison pour laquelle elle a intéressé tant de gens, parce que si aujourd'hui encore, enfin, on remplit une salle. Moi, en décembre, je suis intervenu à de très nombreuses reprises, y compris des fois le soir, fin décembre, à des périodes où traditionnellement les gens ont l'esprit ailleurs et ont envie de penser à autre chose. Mais des salles absolument combles. Mais j'ai aussi été pris à partie, positivement d'ailleurs, à cause de mes prises de position, mais pris à partie dans des bistrots, en entendant des gens en discuter. Enfin, je n'avais, peut-être à part le tsunami, je n'avais jamais vu un moment où l'humanitaire et les questions sur l'humanitaire se posaient avec une telle vivacité, avec une telle intensité, et cela dans tous les milieux et dans de très nombreuses, très différentes circonstances.